À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars et de la mobilisation internationale organisée les 25 et 26 mars prochains à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, Prune te propose une immersion dans la manifestation d'octobre dernier à l'appel de Bassine Non Merci, les soulèvements de la Terre et plus de 150 organisations signataires. Retour sur ce mouvement de contestation contre des cratères plastiques devenus symboles de lutte pour la défense et le partage de l'eau et pour la protection de la biodiversité. Regards croisés, témoignages, grande marche vers la méga-bassine, le vent se lève dans les plaines de Sévrienne. Le bleu de l'eau, Sainte-Soline, c'est maintenant sur Prune 92 FM et prune.net.
C'est d'abord ce que tu retiens de ce que tu retiens d'une manif sur plusieurs jours, c'est souvent l'inconfort, parce que quand tu es bloqué sur place, tu n'as pas forcément évalué l'enjeu de rester plusieurs jours. Et forcément, tu te retrouves à dormir 2-3 nuits, avec le minimum requis, et encore, des fois c'est un peu délicat. Donc ça, c'est le côté anecdotique, mais finalement, c'est assez important parce que ça joue un peu sur le tempérament. Peut-être que l'inconfort nous rend plus combatifs aussi, j'en sais rien, peut-être, hein, c'est pas impossible. C'est ce qui est en marge de manifestations de ce type-là. Et puis, la deuxième chose qu'on oublie souvent aussi sur plusieurs jours, c'est aussi les rencontres que tu fais, à la fois politiques, amical, social aussi, parce que tu rencontres des gens vraiment de tous bords, tout statut. Et ça te fait rencontrer des gens avec qui tu peux avoir des conversations militantes, qui sont parfois étonnantes parce que on n'est pas forcément, je vais pas dire du même avis, mais en tout cas on l'interprète de manière différente. Et c'est cette ouverture d'esprit qui fait que ça te recompose tes idées, dans le sens où à entendre les raisons pour lesquelles une personne vient, qui n'est pas tout à fait la tienne, quelque part, elle contribue à ta propre construction et des fois à changer ta vision des événements. Et cette construction-là, je pense que c'est certainement la plus importante, parce que l'idée d'aller manifestation pour un sujet bien, bien déterminé, c'est une chose, et c'est ce qu'on retient dans l'actualité. En vérité, le fait d'y aller t'engage. Et il t'engage à la fois dans ta vie, on va dire, matérielle, parce que on n'y dort pas si bien, parce que tout ça déclenche des choses. On est habitué au confort, hein, donc là, on n'y est pas. C'est clairement pas ça. Et puis, les rencontres que tu y fais qui te font construire à nouveau, toujours plus, tes idées, quelque part, elles se structurent encore plus solidement, parce que l'interprétation des autres accentue certaines choses et réduisent d'autres. Donc, quelque part, vraiment, pour moi, c'est vraiment toutes ces choses périphériques qui ont été les plus constructives. L'inconfort, je le connais un peu parce que je me construis toujours sur l'inconfort. C'est ce qui me motive tout le temps. Mais ceux qui n'y sont pas habitués, évidemment, pour eux, c'est un peu nouveau. Hein. Les échanges, là, ils sont magnifiques. J'ai encore eu un appel hier soir de quelqu'un qui avait envie de continuer à parler avec moi. Jamais j'aurais eu l'occasion de discuter avec cette personne autrement. mais qui avaient besoin d'en savoir plus sur certaines choses, du vécu, etc. Donc, il avait besoin de ça, lui. Donc, voilà, on a parlé pendant une heure et demie au téléphone. Et j'ai eu l'impression que ça lui faisait du bien, en vérité. Vraiment que ça lui faisait du bien de parler de ça, de dire, voilà, on se sent moins seul dans son état. Donc, voilà. Donc ça fait partie des choses vraiment périphériques qui sont extrêmement importantes. La manifestation, c'est autre chose. C'est la confrontation d'idées et de la loi, de la force publique. Cette confrontation-là, quand on la vit, évidemment, on l'imagine brutale, mais elle l'est bien plus encore quand on la vit. Quand on a face à soi une ribambelle de gens en bleu et surarmés qui nous attaquent en premier, parce qu'il faut le dire clairement, on y va pacifiquement, on veut avancer. Eux, ils nous préviennent, si vous voulez continuer à avancer, on vous balance tout ce qu'il vous faut. Et à un moment donné, ils balancent quoi. Les lacrymomes, c'est pas que, c'est les flashballs, c'est les grenades des encerclements, c'est les trucs qui font un boucan, je ne sais plus comment on appelle ça, les grenades assourdissantes. Enfin, ils sont très, très, très armés, très fournis en vérité. Hein. Donc quand on est confronté à ça, moi j'ai déjà vécu, donc c'est pas si impressionnant que ça. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, et j'en connais un certain nombre qui m'ont dit, mais c'est d'une violence inouïe. Et la violence, elle ne venait pas de nous. Elle venait véritablement des... Alors je ne sais pas si c'était des CRS ou l'armée tout simplement, ou la gendarmerie, mais la violence, elle a commencé là. Je ne dis pas qu'ailleurs, elle n'a pas commencé autrement. Mais en tout cas, en frontal, ce n'est pas nous qui avons commencé. Ça, c'est très 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 clair. Et Darmanin, il racontera ce qu'il voudra, mais la vérité, elle est, nous, on l'a vécu. Donc cette violence-là, et éviter que quelqu'un te matraque, c'est pas rien. Éviter des blessures graves, parce qu'il y a quand même des gens blessés gravement. Quand tu reçois une grenade sur toi, ça fait des dégâts. Il y en a un, à un moment donné, qui a reçu une grenade entre son sac à dos et le dos. Il a eu la présence d'esprit d'enlever son sac à dos. C'est une chance inouïe, sinon je pense qu'il serait probablement mort aujourd'hui. Parce que quand ça explose au niveau des cervicales, je ne sais pas comment, vu l'impact que ça a, je ne sais pas comment on peut survivre à ça. À mon avis, c'était impossible. Il a eu de la chance. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais quand je vois des petits jeunes en bleu qui m'attraquent, mais presque avec plaisir, avec délectation, dans le sens où on a l'impression qu'ils sont dans un... On voit qu'ils m'attraquent presque autant qu'ils ont peur, quelque part. C'est-à-dire que ça enchérit à leur violence parce qu'ils ont autant peur qu'ils frappent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et tu le vois, les gens déjà avec une certaine maturité, les bleus, je parle là, tu vois que c'est pas pareil. Moi, j'ai vu des bleus bon, qui jetaient leurs grenades, mais vraiment à 2 mètres devant eux. Et on voyait dans le geste qu'ils ne cherchaient pas à nous atteindre. Donc, ils n'étaient pas là pour... produire de la violence, que les plus jeunes, franchement, ils voulaient en découdre. Et on aurait dit qu'ils avaient été entraînés pour en découdre. Alors ceux-là, il fallait vraiment les éviter. C'était les plus dangereux dans le lot. C'est pas les plus âgés. J'ai toujours pensé que c'était rien n'est tout noir ou tout blanc, qu'il y avait toujours des nuances entre les deux. Et que même chez les bleus, il y a des nuances, parce que pour qu'un gradé nous dise en aparté, vous savez, chez nous, il y en a qui sont plutôt de votre côté, quoi. Hein. Donc ça, c'est pas rien, et c'est un gradé bleu qui nous le dit. Donc bien sûr qu'officiellement, tout ça, ça ne se saura jamais, ça ne se dira pas, ou ça ne se croira pas, en tout cas, si ça se dit. Et les bleus ne le diront jamais, hein. La grande muette ne parle pas, théoriquement. Mais en aparté, elle parle. Et donc, dans le lot, ils nous ont dit... clairement qu'il y avait au moins un bon tiers dans les bleus qui étaient pour nous. Et ça donne confiance en l'humanité. Ça veut dire que même si on est là pour l'or, tout ça, on n'est pas là pour tuer, on n'est pas là pour forcément être contre l'évolution, surtout quand elle répond à des enjeux climatiques aussi importants. Donc il y a des gens qui réfléchissent aussi, même en bleu. Donc ça, c'est pas anodin. Il ne faut pas considérer les bleus que comme des ennemis ou des gens qu'il faut absolument mettre à terre. Non, je crois qu'il faut se défendre, ça c'est clair. Mais moi, je ne suis pas là pour attaquer. Je veux bien me défendre, mais pas attaquer. Et bon, voilà, ça c'était par rapport à l'idée même de la manifestation, enfin ce dont on parle essentiellement dans les journaux et ailleurs. Les choses que j'ai retenues le plus, c'est l'inconfort, mais à petite échelle, c'est-à-dire 3 nuits, bon, ça remet en avant un peu ceux qui vivent ça en permanence, c'est-à-dire les SDF ou des gens en grande difficulté qui ont parfois un travail ou des petits boulots et qui vivent dans des conditions absolument innommables. Et on se dit, ben voilà, ce que je suis en train de vivre là, c'est un peu ce qu'ils vivent, quoi, mais eux en permanence. Hein. Alors ça, c'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Mais on mesure l'enjeu, faire sa toilette, des choses extrêmement simples, trouver à manger, trouver à boire, tout ça, c'est pas rien, quoi. Et le plus instructif, voilà, les échanges. Rencontrer des gens de tout milieu, de tout âge, de tout bord. S'il y en a une que je dois retenir, c'est celle-là, en tout cas. Le côté échange, c'est celle qui a permis de rencontrer pas des gens comme toi, par exemple, hein, mais bien d'autres, hein, évidemment. Hein. S'il n'y avait pas eu cette manifestation-là, à quelque part, jamais on aurait eu l'occasion de se rencontrer. Et on vient de partout, de toute la France. Et évidemment, qu'on vienne de la campagne, de la ville, de quelle campagne, ben quelque part, on y a une approche qui est la nôtre, celle de notre écosystème. Je ne lis jamais le monde, hein, je le lis qu'ici, hein, parce qu'il est sur place. Mais quand j'ai vu qu'il y avait cet article-là, donc ben j'ai voulu le rendre dans son entièreté, évidemment. Hein. Alors, c'est présenté d'une manière... bon, on connaît le monde, hein, toujours un peu... pas d'engagement. Hein. Globalement, c'est présenté de façon... alors, sans engagement, mais en mettant le doigt sur un élément important qui est l'enjeu de l'eau pour demain. Avec le changement climatique, aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'eau comme on en parlait avant. Elle est plus... c'est devenu un enjeu politique. Écologique, mais surtout politique. Et donc, du coup, aujourd'hui, négliger le traitement de l'eau tel qu'il est fait pour les bassines, parce que maintenant, ça y est, on sait que c'est du pompage et que ça ne vient pas de l'eau de pluie, il était grand temps, parce que même la sous-préfète locale pensait que c'était encore de l'eau de pluie. Donc, à un moment donné, bon, voilà. Maintenant, je pense qu'avec l'ensemble des médias qui en ont parlé, on sait que c'est du pompage dans les nappes phréatiques. Le problème, c'est que quand je discute à mon vendeur d'huîtres ici, il me dit, mais moi, je suis contre les bassines parce que, à force de pomper l'eau dans les nappes phréatiques, nous, dans nos bassins versants, on a besoin de l'eau de pluie. De l'eau de pluie et de l'eau douce. De l'eau des rivières, voilà, les eaux qui s'épanchent. Parce que c'est ce qui fait grossir nos produits. Donc, cette eau douce qu'ils ont en moins, pour eux, c'est une catastrophe. Ils ont des huîtres beaucoup plus salées. Donc, de moins en moins comestibles quelque part, parce qu'elles sont trop salées. Et eux, ils s'en plaignent énormément. Donc, ça manque d'eau dans les bassins. Alors, pour les moules, les huîtres, tout, hein, les agriculteurs, les multiculteurs, etc. Conchiculteurs, en général. Et donc, eux, ils ont besoin d'eau douce. Mais en pompant, quand on voit les quantités d'eau qu'il va falloir pomper tous les ans, et il y a le pompage officiel, mais on sait très bien qu'il y aura aussi du pompage officieux, parce que les paysans, en plein été, ils n'ont pas le droit de pomper, théoriquement. Mais il faut arrêter la plaisanterie, quoi. C'est comme ceux qui n'ont pas le droit d'arroser. Quand ils décident d'arroser contre la décision du préfet, ils ne sont jamais amendés parce que tout simplement, on va parler contre eux. C'est pas possible. Aller contre un paysan, un préfet qui dépose une plainte contre un paysan, ça s'est jamais vu. Alors que la loi le dit. Donc ils le font. Donc on sait très bien qu'ils vont pomper aussi l'été, là où ils en ont le plus besoin. Donc, en fait, cet enjeu, il est à la fois... il est écologique, mais je dirais presque... pour moi, il est d'abord économique. Il est d'abord économique, parce que ça joue beaucoup là-dessus. Et puis, il est social, parce que les besoins en eau, c'est d'abord pour les animaux en général, dont nous sommes, hein, grands consommateurs. Mais tous les autres animaux ont besoin de cette eau-là. Donc, l'eau qui va dans le sol, tout ça, ben, c'est pour les animaux du sol. Les vers de terre, ils ont besoin d'eau. Hein. À force de pomper dans les nappes phréatiques, la percolation de l'eau va plus vite, s'accélère. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où on crée un vide en sous-sol, la percolation du sol fait que l'eau est attirée par le vide. Et donc, du coup, ça se précipite de plus en plus. Ça veut dire que l'été, les assèchements de surface vont s'accélérer, vont être de plus en plus importants. Ça, c'est de l'agronomie. Les agronomes le savent très bien, le principe. Hein. Et donc là, ça veut dire tout simplement que si on continue à pomper comme ça, on vide, on crée une dépression. Et cette dépression-là va accélérer la percolation de l'eau vers le fond, avec tout ce que ça suppose de façon indirecte. C'est-à-dire qu'au même moment, on traite, on fait des traitements. Donc cette accélération va faire que dans les nappes phréatiques, il y aura de plus en plus de pesticides. Et ça, c'est un drame, sachant que dans l'eau que l'on consomme, et je connais bien le problème, il est évident qu'on ne mesure pas l'ensemble des molécules utilisées dans l'agriculture. L'index phytosanitaire qui est connu en agriculture, qui représente l'ensemble des molécules vendables et vendues en France, par exemple, eh bien, l'ensemble de ces molécules sont potentiellement utilisables et donc dans les eaux de traitement. Et à ce moment-là, ces molécules vont percoler. Mais quand, dans les stations, on mesure la potabilité de l'eau, on mesure un certain nombre de molécules, bien entendu, notamment celles qui sont interdites, mais en fait, ça ne représente même pas 10% des molécules utilisées en agriculture. Ça veut dire qu'en fait, on ne mesure pas ces molécules-là. Enfin, elles sont présentes, mais admettons qu'elles soient à des doses infinitésimales. Ce qu'on ne mesure pas, c'est l'effet cocktail de l'ensemble de ces molécules sur les organismes vivants, pas que nous, tous les animaux. Quand on sait qu'il y a une étude actuellement mondiale qui s'est faite sur les eaux de pluie, et qu'aujourd'hui, on peut dire que partout où il pleut sur la planète, en Antarctique, en Arctique et sur l'ensemble des territoires et en pleine mer, l'eau de pluie est polluée. C'est-à-dire que l'eau de pluie saine, comme on pourrait l'imaginer, ça n'existe plus. Même si je récupère de l'eau de pluie chez moi, je vais être obligé de la filtrer, sérieusement. Donc du coup, ces enjeux-là autour de l'eau, ils sont beaucoup plus larges qu'on l'imagine. Les bassines, c'est qu'un épiphénomène, un épiphénomène absurde, mais qui doit nous alerter sur des enjeux qui sont beaucoup plus territoriaux dans le sens de la Terre. C'est-à-dire que c'est une planète qui est fabuleuse et pour laquelle on néglige l'essentiel, c'est l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. De Terre, elle n'est plus rien, ça devient Mars, quoi, grosso modo. Donc là, maintenant, il faut qu'on arrête, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc, il faut manifester et il faut surtout engager, notamment, et ils étaient très présents, les jeunes à s'engager.
Le bleu de l'eau, Sainte-Soline, octobre 2022. Réalisation, prise de son, montage, Amandine Desdeus.